France Musique. Grand large, Benjamin François.
Bonjour à tous. Nous quittons la place Saint-Pierre où nous étions hier pour nous intéresser à un genre romain par excellence, l'oratorio. Il n'avait pas fallu le ban papal de 1681, interdisant toute représentation d'opéra dans la ville éternelle, pour rendre le développement du genre lyrique plus qu'incertain sur les bords du Tibre. Dans une fourberie caractéristique que certains désigneront assez vite comme romaine, encore que l'esprit humain n'a pas son pareil pour contourner les lois, nous l'avons vu durant la pandémie que nous venons de vivre, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Le masque qui glisse ostensiblement juste en dessous du nez. Mais je m'égare. Or, justement, la forme musicale pressentie par Cavalieri, avec ses deux parties séparées par un sermon au lieu des trois actes dans l'opéra, rien ne la distingue musicalement de l'opéra, sinon l'origine plus ou moins biblique des personnages et l'absence d'action scénique. Mais en février 1600, on était bien loin d'imaginer que drames profanes et sacrés suivraient quelques décennies plus tard, leur évolution propre. L'opéra, quand il n'est pas romain, comme il Sant'Alessio de Stefano Landi, disons comme l'Eurydice de Jacopo Peri, est bâti sur un sujet profane avec dialogue chanté. Quant à l'oratorio, dont la Rappresentazione de Cavalieri constitue une première tentative, il se greffe sur un sujet pieux. Et son introduction prend souvent la forme d'une courte sinfonia instrumentale. Cavalieri avait déjà derrière lui une carrière musicale bien remplie lorsqu'en février 1600, il donna son premier oratorio dans un oratoire situé dans un palais non loin de l'église Santa Maria della Vallicella. Notre homme est né vers 1550 dans une famille aisée de l'aristocratie romaine. Dès sa plus grande enfance, il fréquente les cercles dirigeants de sa ville natale. Son père était le meilleur ami de Michel-Ange et avait ses entrées au Vatican en qualité de conseiller artistique. Emilio y a certainement rencontré Ferdinand de Médicis, le sixième fils du grand-duc de Toscane, que l'on destinait à une carrière de cardinal. L'intérêt de Cavalieri penchait nettement du côté de la musique et non de la peinture. Entre 1578 et 1584, on le chargea d'organiser les représentations musicales du carême à l'oratoire Saint-Marcel. Et à la mort de son frère aîné, quand Ferdinand troqua la pourpre cardinalis contre le titre de grand-duc de Toscane, il demanda à Cavalieri de le suivre à Florence, où il le nomma intendant des fêtes de cour. C'est à l'occasion de l'une d'entre elles, et pas n'importe laquelle, le mariage du grand-duc, que Cavalieri fit jouer les célèbres intermèdes de la Pellegrina, qui compte parmi les plus importantes formes, nous conduisant tout droit vers l'opéra. Depuis son poste à Florence, il arrivait fréquemment à Cavalieri de faire de la navette à Rome afin de seconder le pape Clément VIII dans l'organisation artistique de l'année sainte 1600. C'est ainsi qu'il put présenter à Rome une œuvre qui tirait parti de ses expériences florentines et lui permit de revendiquer d'avoir inventé le recitar cantando, la déclamation musicale chantée, plusieurs mois avant que l'opéra ne soit donné à Florence lors du mariage de Marie de Médicis avec le roi de France. À Rome, le lieu où fut donnée cette rappresentazione n'a pas été choisi par hasard. Il s'agissait d'un oratoire, donc d'un lieu voué aux dévotions, à la prière, qui n'était pourtant pas une église et qui était soumis à des réglementations très strictes en matière de liturgie. Leur fondation remonte à la fin du Concile de Trente, à une époque où Filippo Neri, bâtisseur de la Chiesa Nuova, l'église neuve, fonda une congrégation qui s'occupait des pauvres, des malades et des étrangers séjournant à Rome et qui parallèlement cherchait à développer de nouvelles formes de piété religieuse. C'est ainsi qu'il imagina des après-midi musicaux qui cherchent à faire passer le message religieux par le biais de chœurs polyphoniques, en italien littéraire, hors de toute liturgie. Son objectif se résume en une maxime, divertir et instruire tout à la fois.
Grazie armonie che rallegra.
À la différence des églises où seul le latin était toléré, une langue comprise uniquement par ceux qui avaient fait des études, cette confrérie proposait aux fidèles prêches, prières, exégèses bibliques dans leur dialecte. La musique y jouait un rôle important, de même que la représentation théâtrale de thèmes religieux. Les activités de la confrérie connurent très vite un grand succès, incitant le pape à profiter de l'année sainte, qui ne manquerait pas d'attirer à Rome des légions de pèlerins venus du monde entier, en apportant un soutien important aux oratoriens, comme on les appelait. L'auteur des textes de cette rappresentazione n'est autre qu'un compagnon de route de Filippo Neri. Ce dernier adorait les allégories morales, comme le bien et le mal, le ciel et la terre, l'âme et le corps, s'affrontant dans ce qu'on peut appeler des joutes verbales, permettant de représenter clairement et d'une manière très pédagogique les différents points de vue pour finalement prendre parti pour l'un d'entre eux. Et le dialogue ne manquait pas d'inciter l'auditeur à se positionner activement. L'opposition systématique entre le bien et le mal, qui ne fait aucun mystère de l'issue finale du combat, limitait les possibilités de représentation dramatique. Or, il revint à Cavalieri de trouver des moyens musicaux permettant de caractériser les différents personnages. Il opposa les tonalités majeures aux tonalités mineures pour conférer à l'âme et au corps des personnalités différentes. Ainsi, le corps chante toujours en mineur, tandis que l'âme lui répond invariablement en majeur. Et comme la déclamation musicale, calquée sur la tragédie antique, ne laissait que très peu de place à la musique, Cavalieri est amené à donner davantage de poids à la musique en donnant un rôle prépondérant aux instruments de son oratorio avec des ritournelles qui permettent au chant de respirer. De la même manière, Cavalieri accorde une grande importance au chœur et au ballet final. Les premières histoires sacrées, véritables prédications en musique, étaient nées. Elles partaient du postulat de faire de la Bible un drame sacré nécessitant plusieurs voix, plusieurs personnages qui se répondent, s'apostrophent, expriment leur souffrance, leur passion devant l'auditeur. Dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une mise en espace, plus qu'une réelle mise en scène, les gestes, regards, intonations des chanteurs comptent, même si la représentation de l'âme et du corps de Cavalieri s'était déroulée en costume et avec une mise en scène, cette forme n'allait pas s'imposer sans quelques changements. Dès le premier tiers du XVIIe siècle, pour répondre au succès des histoires sacrées récitées en musique, on envisage la construction d'un nouvel oratoire dévolu à ce répertoire. L'architecte Borromini réalise à partir de 1637 un superbe monument en briques roses qu'il flanque à gauche de la Chiesa Nuova et que vous pouvez toujours admirer aujourd'hui. Les deux bâtiments forment un complexe monumental qui traduit tant la réussite de l'ordre des oratoriens que les drames sacrés qui s'y tiennent, de la Toussaint jusqu'au Rameau. Son inauguration a lieu lors des Vêpres de l'Assomption le 15 août 1640. Mais Borromini n'a pas prévu assez grand. Le lieu est victime de son succès et il faut sans cesse ajouter des bancs, refuser du monde, gérer quelques émeutes dues au manque de place, surtout quand les grands castrats s'y produisent. Tout au long du XVIIe siècle, la forme de l'oratorio se codifie pour devenir un spectacle édifiant dont l'ordonnancement sera quasiment immuable. Au moment où le soleil se couche, quelques chanteurs entonnent quelques litanies, suivies du Salve Regina et autres prières. Un prêtre fait un bref commentaire de la fête du jour. Un mot d'introduction conduisant à l'oratorio, toujours en deux parties, pour qu'un prédicateur puisse prononcer un sermon d'une demi-heure en guise d'entracte. Les sujets sont pris dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. Aux librettistes de gloser, commenter, analyser, développer, apostropher, le but est de comprendre le sens du texte, mais aussi, grâce au pouvoir de la musique et d'une certaine théâtralisation, d'être ému par la manière dont les choses sont dites. Deux langues finissent par s'imposer, le latin si on s'adresse à un public cultivé ou massivement constitué d'ecclésiastiques, et l'italien littéraire si l'on veut toucher un public plus vaste. Au passage, le petit peuple de Rome ira se brosser puisqu'il n'est pas en mesure de comprendre tout ce qui n'est pas dialectal. Dommage. Enfin, une fois la seconde partie achevée, la cérémonie se clôt par la récitation de trois pater et trois ave et tout le monde sort au son des cloches. La cérémonie aura duré 3 heures. Les rues de Rome sont éclairées par des lanternes. De tous les compositeurs romains, Carissimi est un des plus grands noms de l'oratorio. Fils de tonnelier, il est devenu à 22 ans maître de chapelle à la cathédrale d'Assise et prend 2 ans plus tard, en 1629, le poste de maestro d'un des bastions de la contre-réforme, le Collegium Germanicum, le collège jésuite, qui avait pour tâche de former la fine fleur des futurs soldats qui combattraient la réforme en terre germanique. Carissimi resta dans ce poste jusqu'à sa mort, refusant la gloire de Saint-Marc de Venise et même celle de la chapelle impériale à la cour des Habsbourg à Vienne. Mais rien n'y fait, il préfère fournir de la musique aux académies romaines. La reine Christine de Suède, nous l'avons vu hier, qui a le nez fin, en fait en 1656 son maestro di cappella del concerto di camera. Beaucoup de cantates profanes de Carissimi furent composées pour elle. Et ce n'est pas tout. Ses élèves sont nombreux avec des Italiens. Alessandro Scarlatti, Cesti, Stefani, le Français Charpentier, les Allemands Johann Caspar Kerl et Christoph Bernhardt. En 1650, alors que sa renommée est au plus haut, le grand théoricien Athanasius Kircher souligne que Carissimi surclasse tous les autres par sa capacité à orienter l'esprit des auditeurs vers l'émotion de son choix. Et une des raisons en est l'extrême sobriété de ses moyens musicaux, mettant à nu les sentiments de ses personnages et en les mettant en tension dramatique.
Oh,
Un autre compositeur important a réalisé presque la totalité de sa carrière dans la Rome du XVIIe siècle. C'est Luigi Rossi, protégé par la famille du pape Barberini, Urbain VIII. C'est pour cette raison que nous le connaissons un peu mieux en France que certains de ses collègues, puisque le cardinal Mazarin, un Romain lui aussi, l'a invité à Paris afin d'offrir à la cour royale le premier opéra spécifiquement composé pour un public français, un Orfeo créé au Palais Royal le 2 mars 1647. Dans ces années, sa musique est encore dominée par le Recitar Cantando, formé à Rome par Landi et Mazzocchi, et qui sera ensuite développé à Venise par Monteverdi et Cavalli. La nouvelle forme de vocalité développée par Rossi se distingue par une profonde expressivité, des airs lyriques, aussi nombreux que brefs. Sur le plan de la musique liturgique, il est l'auteur de motets, dont voici un magnifique exemple pour deux sopranos et basse continue. Un autre grand compositeur d'oratorio dans ce XVIIe siècle romain est Alessandro Stradella. Trois oratorios reprennent des sujets communs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Esther, Suzanne et Jean-Baptiste, quand trois autres s'intéressent à des saints presque uniques dans l'histoire de l'oratorio, comme Jean Chrysostome, Pélagie et Édith. Pour ce qui est d'Édith, vierge religieuse qui refusa au Xe siècle la couronne d'Angleterre et préféra rester dans l'abbaye où elle avait grandi pour mourir à peine plus que trentenaire, l'oratorio a été composé et créé à Rome dans la première moitié des années 1670. Son livret est de la plume d'un noble, Lelio Orsini, un grand spécialiste, auteur d'au moins 15 livrets du genre mis en musique par la fine fleur de l'oratorio romain. On a là Marco Marazzoli, Ercole Bernabei, Bernardo Pasquini et Stradella. L'intéressant dans Edith est qu'aucun épisode dramatique de la vie de la sainte n'y est représenté. Bien au contraire, on va y rencontrer des personnages allégoriques comme l'humilité, le sens, la beauté, la grandeur et la noblesse, qui, à l'exception de l'humilité, veulent pousser Edith à accepter le trône. Il n'empêche, on peut s'étonner du choix assez exotique d'une sainte n'étant même pas vénérée en Italie. Il est possible que le commanditaire ait voulu attirer l'attention du public sur un événement politique particulier et que l'oratorio serve dès lors de caisse de résonance pour une situation politique agitant l'époque. Pourquoi ne pas imaginer qu'il y ait fait référence à la reine Christine de Suède en exil à Rome et que nous avons croisée dans cette série, elle qui avait renoncé au trône de Suède pour embrasser la foi catholique. Mais on sait aussi que la reine n'a à aucun moment émis le souhait de prendre le voile ni même de renoncer à une vie fastueuse, si bien que cette piste ne s'avère pas très crédible. Mais un autre événement agitant la vie politique de l'époque pourrait avoir fourni un prétexte à cet oratorio de Stradella, à savoir les tentatives de mariage entre Marie-Béatrice d'Este et Jacques II Stuart, prince d'York et futur roi d'Angleterre. Leurs noces, célébrées en septembre 1673, furent l'objet d'intenses tractations de Louis XIV pour porter sur le trône d'Angleterre un couple catholique qui lui serait fidèle. Mais la jeune Marie-Béatrice ne l'entendait pas de cette oreille, elle qui voulait se consacrer à une vie monacale, avec le soutien de sa mère, la nièce du cardinal Mazarin. Finalement, le pape Clément X réussit à faire plier la volonté des deux femmes, expliquant que ce mariage devait être accepté puisqu'il se faisait pour le bien de la foi catholique. Un soutien plein et entier à la volonté politique de Louis XIV, qui intervint après une longue hésitation, si bien que le livret de cette Santa Editta semble bien correspondre à ce moment d'hésitation. On y voit une sainte pleine d'ardeur juvénile affronter verbalement la beauté, un ténor, le sens, une basse, la grandeur, un contralto, et la noblesse, une soprano. C'est elle qui pique au vif Edith lorsqu'elle lui rappelle que sa naissance royale est en partie une volonté de Dieu à laquelle elle ne doit pas s'opposer en refusant la couronne royale.
Oh, dear.
Dans les livrets des oratorios romains du XVIIe siècle, mis en avant par le Vatican dans sa politique offensive de contre-réforme, des héroïnes apparaissent dans les collections de manuscrits des Barberini, des Chicis et autres grandes familles papales. Ce sont les lamentations d'Hélène de Troie, de la reine Artemisia, de Marie-Madeleine et de la Vierge Marie, sans oublier Sainte Catherine. Lelio Orsini, l'un des librettistes les plus éminents de Rome, a confectionné un récit plein de vivacité, drapé dans une poésie élégante, que le compositeur Marco Marazzoli a magnifié de manière spectaculaire et extravagante dans l'Oratorio di Santa Caterina. Marazzoli avait débarqué à Rome en 1626, peu de temps après son entrée au service du cardinal Antonio Barberini. Il avait pris part à des voyages officiels à Urbino, Ferrare, Venise et Paris. La reine Christine de Suède, qui avait le nez fin, en fit son virtuoso da camera et les commandes de cantates d'Alexandre VII Chigi, dont la collection comporte aujourd'hui plus de 300 cantates de Marazzoli, ne tardèrent pas à affluer. Pendant l'exil des Barberini à Paris, il n'y avait eu que peu d'opportunités de composer des opéras à Rome, si bien que le compositeur se tourna vers l'oratorio, en italien littéraire, nous sommes là dans les années 1650, pour composer une Santa Caterina et le couronnement.
O donzella reale, m'ha reso il cor amante. Se la sembianza bella del volto a noi riscopre che sia l'alma pietosa, devo sperar d'or forto alla mia piaga sposa. Giungerà il porto, meco tu godrai sempre contenta, s'appagherai cortesi i miei giusti pensieri e pietosa verità degne d'imperi.
Dans les grands musiciens exerçant à Rome au XVIIe siècle, il nous faut encore évoquer Alessandro Melani, qui vient une première fois dans la ville éternelle pour assister au couronnement de Clément IX, ce dernier le faisant nommer peu de temps après maître de chapelle de la basilique Sainte-Marie Majeure, fonction qu'il occupe jusqu'en 1672, avant de trouver le même poste à Saint-Louis des Français. D'ailleurs, il ne délaissa pas complètement Sainte-Marie Majeure, où la chapelle privée de la famille Borghese employait en parallèle 12 musiciens, 10 chanteurs, un organiste et un maître de chapelle, avec obligation de chanter tous les samedis, ainsi qu'à toutes les fêtes dédiées à la Vierge, les complis, à deux chœurs et les Salve Regina. Un état dans l'état donc, auquel participaient les plus célèbres musiciens présents à Rome, Luigi Rossi, Orazio Benevoli, Bernardo Pasquini jusqu'à Francesco Gasparini. La production romaine de Melani comprend en outre des concerts spirituels, 10 oratorios, des opéras, 2 recueils de motets, dont le motet à deux voix « O voces formidande » qui a été publié en 1673. Il oppose la fragilité de la vie terrestre comparée à la vie céleste, le tout dans un langage harmonique des plus modernes.
Thank you.
Il est une musique tout à fait exceptionnelle dans la musique française du XVIIe siècle, c'est bien le corpus des histoires sacrées de Marc-Antoine Charpentier. Dans ses œuvres, le compositeur affiche plus que partout ailleurs sa filiation avec la musique romaine qu'il a pu entendre et étudier lors de son séjour dans la cité vaticane à la fin des années 1660. À l'écoute de certaines pièces comme Judith, la filiation apparaît clairement sans que l'on soit certain à 100% que le jeune Marc-Antoine ait suivi l'enseignement de Carissimi. Mais on se doute bien que le français aura fait tout son miel à l'écoute d'un genre nouveau qu'il s'empressera d'exporter en France à une époque où il est à peu près le seul à représenter le genre de ce côté-ci des Alpes. L'historia ou histoire atteint de grandes dimensions pour l'époque, puisqu'elle met en scène des solistes, un ou plusieurs chœurs, et des instruments concertants dont le texte est tiré de l'Ancien ou du Nouveau Testament, avec un narrateur, historicus, confié aussi bien à un chanteur soliste, à un petit ensemble, qu'au grand chœur. Tout cela est fort habile et bien construit, comme on va le voir à l'exemple de Cécile, qui peut être considérée comme une femme forte du catholicisme. Son histoire touche des thèmes de la reconquête catholique, inflexible dans sa chasteté, animée d'une foi inébranlable et militante, chantant les louanges de Dieu jusqu'à son martyre, la sainte patronne des musiciens apparaît comme exerçant son art au seul service de Dieu. Elle est l'emblème même de la puissance spirituelle de la musique. Elle reste entièrement vouée à Dieu et refuse le monde au prix de sa propre vie. Un modèle qui ne peut que conforter dans leur choix des femmes dévotes de la noblesse, comme Mademoiselle de Guise, la patronne de Marc-Antoine Charpentier. Thank you. Fin de ce quatrième épisode sur la musique à Rome au XVIIe siècle. Demain, il sera question d'un bien plaisant sujet, le séjour du jeune Handel dans la ville éternelle. Merci à Annie Comier, Julien Douminc et Catherine Prinlegal à la réalisation. Vous pouvez télécharger cette émission sur l'appli Radio France ou la réécouter sur francemusique.fr et toutes les coordonnées des musiques que nous avons écoutées sont sur la page de l'émission. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.